Marcel Gauthier, invité des matins, a accepté le petit pari. Prend-il ça, prenez-vous ça comme un pari, d'ailleurs, Marcel Gauthier, mais c'est de tenter un pas suspendu, un pied un peu levé sur l'actualité pour ralentir, qui sait, un instant, le rythme de ce maelstrom qui voit se succéder depuis le mois de décembre dernier, des révolutions en Tunisie, en Égypte, une guerre civile aujourd'hui, une révolution en Libye, des manifestations partout dans le monde arabe, des crises politiques interne à la France, remaniement, une situation toujours en Côte d'Ivoire extrêmement tendue, des vrais faux débats nationaux et pour couronner le tout, une double menace sismique et nucléaire au Japon. L'idée de cette émission a été peut-être au fond inspirée par une de vos phrases tirée du Monde désenchanté en 86 qui commentait le désenchantement du monde de 85, Marcel Gauthier. Cette question, comment élucider ce que l'on pense au moment où on le pense, en évitant de penser sous le signe de l'aboutissement de l'histoire des autres. Alors, autrement dit, comment comprendre les séquences dans lesquelles nous vivons? Et encore une fois, merci peut-être comme première partie, non pas de vous faire jouer le prophète que vous ne voudrez pas jouer, mais de vous poser tout simplement la question, que fait l'intellectuel face à tous ces événements concomitants, et encore que quand on vous a invité, nous n'avions pas prévu le séisme au Japon, mais je le rajoute, que fait l'intellectuel devant tous ces événements?
L'intellectuel est comme tout le monde, il est pris dans le flux de l'actualité. Simplement, il a une préoccupation qui est d'abord d'être en garde contre les suggestions de l'actualité, parce que être intellectuel, c'est avoir le minimum de culture, mais beaucoup de gens longs qui ne sont pas des intellectuels, qui vous met en garde contre l'immédiateté, les jugements péremptoires, les déclarations définitives formulées sur l'instant et qui, 15 jours après, sont devenues ridicules, absurdes. Mais les médias vivent, eux, de l'amnésie sur toutes les insanités dont ils ont été le vecteur. Être intellectuel, c'est un peu...
Un jour des... chasse l'autre chez nous, vous savez, Marcel
Bien
Gauthier.
Entendu.
Mais je ne sais pas s'il faut dire de la fierté ou de la honte, un jour chasse l'autre.
Ni l'un ni l'autre. Mais il y a quelques personnes dont le métier est d'avoir à l'intérieur de cette sphère un peu de mémoire, donc de recul. Et puis, on a le souci justement de... très complexe, de réinscrire ce qui arrive tous les jours et qui change le tableau du monde dans le tableau de ce qu'on sait déjà. Je dirais que voilà, c'est l'exercice intellectuel principal. Nous avons une idée préconçue, même si elle est très provisoire, de la manière dont les choses sont en train de se dérouler à différents niveaux. Qu'est-ce qui se passe tous les jours ? Il modifie. Être intellectuel, je dirais, mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas un problème de métier, c'est un problème d'attitude personnelle. Et beaucoup de gens l'ont qui n'ont pas le titre d'intellectuel, si tant est que quelqu'un l'a. Il s'agit de relier, de faire le pont entre ce que nous avons sous les yeux, au jour le jour, heure par heure, et puis l'idée globale que nous pouvions jusque-là nous faire de la marge des événements dans différents domaines.
Mais par exemple, l'idée de ce matin, alors qu'il y a eu, on a entendu ici et là, des plaintes disant qu'il y avait un silence des intellectuels par rapport aux révolutions arabes, d'autres ont dit mais au fond pas du tout, et puis avec les nouveaux moyens de communication, internet, beaucoup d'intellectuels, plus ou moins, on va dire, estampillés comme tels, mais se sont après tout exprimés, ont fait des analyses de ci, de là. Mais vous quand même, par exemple, Marcel Gauthier, est-ce que ces révolutions arabes, le départ en Tunisie, avec notamment l'immolation de Mohamed Bouazizi, qui a entraîné ce que l'on sait, est-ce que par exemple cette actualité-là vous a saisi et que vous êtes dit immédiatement « je comprends ce qui se passe » ou, en tant qu'intellectuel, directeur de la revue Le Débat, je vais prendre le temps, on va prendre le temps, quelques-uns, avant d'écrire sur cette question et de décrypter ce qui se passe. Mais avez-vous d'abord été saisi de stupeur ?
De stupeur, non. Non pas que j'avais le moins du monde prévu ce qui s'était passé en Tunisie, mais ça ne m'a pas surpris sur le fond. Et ça m'a même beaucoup intéressé de voir que de tels événements pouvaient survenir, étant donné les petites batailles d'idées auxquelles j'ai été en butte. On me disait toujours, mais comment vous parlez de sortie de la religion alors qu'il y a le retour du religieux dans tout le monde arabe, il y a une réislamisation de ces sociétés. À quoi, justement, j'essayais de répondre, sans être beaucoup entendu, quel islam derrière cette réislamisation, qui était un fait absolument réel, on l'observait aussi bien en Égypte. Quel islam? Est-ce que, en fait, on n'a pas affaire à une transformation de la religion dans des conditions sociales et comment dire, mondiales, nouvelles? Ce qui était le cas, à mon avis. Donc, moi, j'ai pas été surpris. J'ai été passionné, évidemment, par ces événements. Je n'ai pas de vocation particulière. Je ne pense pas que le monde entier attend mon opinion sur la question. Donc, je me sens pas nécessairement obligé de la manifester publiquement. Mais évidemment, je suis la chose de près et je me propose bien d'y faire écho quand le moment sera venu, effectivement, d'avoir un peu de distance, y compris sur ce qui s'est passé exactement, parce que c'est une boîte noire. Nous avons le résultat, mais nous ignorons les voies qu'a pris le phénomène, et il est très important pour le comprendre d'avoir cette description plus précise qui va venir dans les mois qui viennent. Tout se joue dans des temps différents. Mais dans le cas précis, je n'ai absolument pas été frappé de stupeur par ce qui se passait. J'ai été frappé de joie, au contraire, parce que ça me semblait justement conforter la perception profonde que j'avais de la réalité de ce qui se passait dans le monde arabe. Ouais.
Alors ça, de ces questions-là, nous y reviendrons alors plus précisément pour en comprendre la généalogie, le contexte, tout simplement, en faisant appel à la part de l'historien qu'il y a dans le philosophe Marcel Gauchet, à moins que ce ne soit l'inverse. Et comment interprétez-vous, cela dit, tout de même, cette interrogation presque polémique autour de ce fameux silence supposé des intellectuels sur les révolutions arabes, Marcel Gauchet?
Écoutez, c'est devenu un marronnier médiatique. Le silence des intellectuels est devenu une nouvelle question. Quand ils parlent, on les insulte en les traitant d'irresponsables qui disent n'importe quoi. Et de temps en temps, on les accuse de ne rien dire. On se demande bien pourquoi, parce que moi, je les entends beaucoup. Je ne sais pas donc où sont les gens qui perçoivent un silence qui m'échappe personnellement. C'est une absurdité. C'est même pas la peine de s'y arrêter. La vérité, c'est que les intellectuels, encore une fois, on en parle comme s'ils avaient une espèce de vocation directe à s'exprimer sur tous les sujets à tout moment.
Il y a une demande d'explication. Nous, des auditeurs, des mails qui arrivent où on demande du décryptage et on se dit que l'intellectuel... Tout de même, Marcel Gauchet, vous êtes sévère. Je vais prendre les gros sabots, mais en France, on est habitué à ce que depuis l'affaire Dreyfus, la figure de l'intellectuel soit convoquée pour intervenir et aider à penser, à réfléchir.
Ah non, mais là, on mélange tout. Si vous voulez,
on n'en est plus là, c'est ça.
La vérité, la justice, c'était de ça qu'il s'agissait dans l'affaire Dreyfus. Là, aujourd'hui, on n'en est pas là. Il s'agit de réaction à l'actualité. C'est autre chose. Il n'y a pas à établir une vérité particulière dont les intellectuels seraient détenteurs, ni à faire valoir une cause de la justice qui n'est pas directement en cause. Il s'agit de la place des idées par rapport à l'actualité. Il n'est pas nécessairement le cas. La réaction à l'actualité ne fait pas forcément partie de la vie des idées. C'est autre chose. De quoi parle-t-on? Et en plus, les intellectuels, c'est qui? Et qui leur donne la parole? Parce que par eux-mêmes, les gens n'ont pas un accès direct à tous les moyens de communication. Ça ne se passe pas de cette façon. Je crois qu'on est, encore une fois, devant un faux problème dont l'absurdité est le trait frappant.
Je ne vois rien d'autre. Alain Touraine, dans Le Monde du 19 février, dit « On doit demander aux intellectuels de définir et de défendre la cause de la liberté qui est aussi celle de la justice sociale. »
Est-ce qu'il y a besoin des intellectuels pour définir la cause de la liberté et de la justice sociale? Dieu merci, non! Les intellectuels ont un rôle, me semble-t-il, qui se situe précisément sur le plan de l'élucidation des moyens, des conditions dans lesquelles la liberté ou la justice sociale peuvent s'installer. Mais tout un chacun dans nos sociétés éduquées est parfaitement en mesure de savoir où est la voie de la liberté et la voie de la justice sociale. Ça me paraît relever d'une invocation à un rôle prophétique des intellectuels qui est totalement dépassé historiquement.
Alors vous vouliez justement qu'on ne mélange pas tout, que l'intellectuel du temps de l'affaire Dreyfus défendait l'idée de la justice, l'honneur d'un homme. Mais après tout, Marcel Gauchet, aujourd'hui, quand Bernard-Henri Lévy dit au président de la République française, on ne peut pas rester les bras ballants devant les crimes de Muammar Kadhafi qui tue son peuple, bombarde son peuple en Libye, il faut intervenir. Et là, évidemment, branle-bas le combat, désordre diplomatique, le Quai d'Orsay n'est pas informé, l'état-major pas plus, enfin, branle-bas le combat, il faut du coup faire un peu marcher en arrière. Mais après tout, là, dans ce cas-là, n'est-il pas dans son rôle ?
Je ne crois pas.
Ne laissons pas les Libyens, ne laissons pas Kadhafi bombarder les Libyens. Intervenons, comme on l'a fait en Bosnie.
On peut dire ça, et quel effet est-ce que ça produit ? Rien du tout.
Il y a eu un gros désordre diplomatique.
Gros bruit autour, et Sarkozy se ridiculise aux yeux de la diplomatie internationale et de ses propres diplomates, en se laissant marcher sur les pieds par une démarche qui est parfaitement légitime en elle-même, mais qui n'a aucune espèce de poids dans la réalité. Et supposons que moi je dise la même chose, mais tout le monde s'en fout. C'est parce que nous avons la personne
de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes beaucoup moins célèbre que Marcel Gauchet, que Bernard-Henri Lévy, Marcel Gauchet. C'est peut-être une pointe de jalousie de votre part.
Mais pas du tout. Je veux dire, on a affaire à un autre métier. Je veux dire, on a affaire à un cas particulier d'une vedette médiatique, d'une star médiatique, très bien, ça ne me dérange en rien, dont les déclarations tonitruantes sont immédiatement répercutées au point même de pouvoir avoir un impact politique. Mais il est le seul dans son genre, et est-ce la définition de l'intellectuel ? Et avons-nous besoin de Bernard-Henri Lévy pour penser qu'il serait utile d'intervenir éventuellement en Libye, compte tenu du fait que nous ne pouvons pas tout, que la France n'est pas souveraine, que les décrets qui sont pris par quelques personnes à Paris n'ont aucune vocation à s'imposer à la communauté internationale qui est déterminante en la matière. On voit bien l'impuissance à laquelle amène cette bonne conscience qui décrète que les choses devraient se passer comme ci, comme ça, mais elles ne se passent pas comme ça. Et je pense que le plus intéressant, personnellement, en tant qu'intellectuel, c'est de réfléchir aux conditions qui rendent une intervention en Libye aussi difficile, aussi problématique dans le contexte international actuel.
Quand on vous dit qu'il y a urgence.
Mais on peut. Je le dis, et alors ? Tout le monde peut le penser. Combien de gens dans ce pays...
Il y a un émoi très grand dans les populations. On le sent sur cette situation libyenne.
Mais c'est légitime. Mais est-ce que nous avons besoin d'intellectuels pour dire ce que tout le monde pense ? La fonction de l'intellectuel, elle est spécifique. Elle est plutôt pour éclairer le fait que, en dépit de ce sentiment d'urgence que nous sommes très nombreux à éprouver, en effet, l'intervention en Libye est très improbable. Il me semble que c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est très intéressant de comprendre pourquoi cette intervention est très improbable. Parce que là, il y a un vrai problème. Et justement, quand on parle de décryptage d'explications, qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Non pas le fait que Kadhafi est un salaud qui est prêt à massacrer son peuple, tout le monde le sait. Mais pourquoi tout cela, bien acquis aux yeux des populations, il ne se passe rien ? Parce qu'il y a des intérêts, d'une part, à ce qu'il ne se passe rien, parce que il y a des vraies difficultés dans une intervention de ce genre, parce que le vent a tourné et que l'ingérence aujourd'hui est devenue très problématique aux yeux de tous les acteurs, parce qu'il y a un jeu international compliqué où la Russie, la Chine sont bien décidés à paralyser toute initiative occidentale pour des raisons politiques qu'on peut déchiffrer. Le décryptage, il est là. Il n'est pas dans le fait de dire ce qui va de soi que nous sommes du côté des Libyens massacrés par Kadhafi, mais dans ce qui empêche qu'il se passe quelque chose pour les soutenir. Parce que là, il y a un vrai problème. Ça, c'est très opaque. Et je pense que le travail des intellectuels est de ce côté-là.
Et d'avoir recours à sa bibliothèque, aux livres d'histoire.
Dans le cas précis, pas tellement. Hein, il s'agit vraiment d'autre chose qui est la complexité du jeu international actuel. Après tout, disons, je n'en donne qu'un exemple, ça arrange beaucoup de gens, le fait de cette situation en Libye. Imaginons que la Libye est tombée, que le régime Kadhafi se soit écroulé comme un château de cartes avec la vague Tunisie, Égypte, Libye. Ça aurait continué.
On a parlé de tsunami d'ailleurs,
des effets
dominos. On a parlé de tsunami à l'époque.
Un tsunami démocratique. Oui. Imaginons que cette vague ait continué. Il est raisonnable de penser que d'autres régimes arabes auraient suivi la vague, auraient été eux aussi ébranlés, en Jordanie, Bahreïn, etc. Eh bien, il y a des gens que ça arrange bien que cette vague s'arrête. Tant qu'il y a la guerre en Libye, tant qu'il y a la guerre civile, il ne se passera rien ailleurs. On calme les choses. On, peut-être, inhibe définitivement cette vague démocratique. Et ça, c'est un intérêt politique de première grandeur. Je pense que les États-Unis ne sont pas tristes du fait que... c'est pas qu'ils aient de la sympathie pour Kadhafi, mais ça stoppe le mouvement des révolutions arabes.
À suivre avec vous dans les matins de France Culture, Marcel Gaucher, cette conversation, cet éclairage sur l'actualité, le rôle de l'intellectuel, son commentaire, son analyse sur la compréhension de ce monde. Où en sommes-nous au juste, demandiez-vous encore sur la question adressée à l'historien en 1986.